France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Faut-il continuer à manger des salades en sachet? D'après le magazine 60 millions de consommateurs, la mâche et la laitue prête à l'emploi et déjà lavée contiennent beaucoup trop de contaminants, des résidus de pesticides peu recommandables. Alors nous verrons comment choisir sa salade au marché, quelles sont les variétés à privilégier en ce moment, quelles sont leurs vertus nutritionnelles. Nous vous proposerons des idées de recettes et de vinaigrettes et des conseils pour planter salade et jeunes pousses dans votre balcon, votre terrasse ou votre jardin. Et en bonus, la philosophe Laurence de Villers vous proposera une petite philosophie de la salade. Nos invités attendent vos conseils, vos questions autour de la salade au 01 45 24 7000 et sur WhatsApp en laissant des messages et des notes vocales sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebbi. Grand bien vous fasse.
Pour les ménagères, c'est rapide, c'est frais, c'est bon, c'est un petit mélange. On peut bien se payer une fantaisie de temps en temps.
Et cette fantaisie s'appelle une salade composée, prête à consommer, un produit baptisé quatrième gamme, entendez par là des légumes frais, préparés, conditionnés. Deux impératifs absolus tout au long de la chaîne de conditionnement, hygiène et fraîcheur du produit.
C'est très pratique et elle est très propre, elle est formidable.
C'est peut-être très pratique, mais enfin, pour l'instant, on n'a pas pris l'habitude encore.
La salade qui est quand même fermée dans un sachet, comme ça, elle ne peut pas rester longtemps, elle s'échauffe.
Et depuis ce reportage de François Rhône-Alpes le 20 février 1986, les Français ont pris l'habitude de manger des salades en sachet. Bonjour Patricia Chéropoulos.
Bonjour.
Vous êtes journaliste consommation alimentation au mensuel 60 millions de consommateurs, indispensable magazine, avec à la une un dossier sur les pesticides plein les sachets de salades. Vous délivrerez aux auditeurs tout à l'heure le classement des meilleures et des pires salades en sachet. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Journaliste, réalisateur à France 2, professeur d'horticulture de formation. Vous publiez un petit livre qui tient dans la poche arrière d'un pantalon ou dans le creux de la main. C'est le petit guide des salades et des jeunes pousses. C'est publié chez First Edition. Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour.
Vous êtes chef et fondatrice de la Guinguette d'Angèle et vous avez publié chez Marabout 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel. D'habitude, quand vous venez, c'est bonbons. Il y a plein de J'ai recettes, honte. Et là, aujourd'hui, nada, rien. Mais on vous aime quand même, Angèle Ferremag. Bonjour docteur Arnaud Cocol.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous retrouver dans cette émission, vous êtes médecin nutritionniste et vous avez notamment publié chez Albin Michel « Végétarien sans carence ». Alors Philippe Collignon, la culture de la salade sur son balcon, sa terrasse, son jardin, c'est de plus en plus populaire. Quoi de plus satisfaisant que de déguster une salade du jardin que l'on a cultivée avec amour ?
Ah oui, ça c'est un plaisir. Surtout, on la sème ou on peut acheter des jeunes plants. Moi, je préfère la semer dans un jardin, dans un paquet de graines. On peut faire des centaines de salades. Alors, la salade, ça fait partie de la grande famille des légumes. C'est, on va dire, le légume le plus fragile du potager. Donc, il faut en prendre soin. Il faut, lorsqu'on sème, il faut évidemment repiquer, il faut espacer.
Repiquer, ça veut dire quoi ?
Repiquer. Donc, on sème, on laisse pousser la jeune plantule, puis après, on la repique en laissant une distance de sécurité, j'allais dire, entre chaque salade pour qu'elle puisse s'épanouir. Selon la salade, il y a des salades qui prennent beaucoup de place, les frisées, etc. Et d'autres qui prennent moins de place, comme la mâche. Elles sont plus discrètes.
Alors, en ces temps d'inflation, c'est économique. Avec un sachet de graines à 5 euros, on peut consommer des centaines de salades tout au long de l'année.
Eh oui, et effectivement, tout au long de l'année. Et en plus, on peut les semer régulièrement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le semer qu'au printemps. Vous les semez tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et vous avez une récolte de salades presque toute l'année. Il y a même des salades perpétuelles, la salade romaine, etc., des salades à couper qui repoussent. Et donc, on peut consommer de la salade dans son jardin, sur son balcon, toute l'année. En plus, la salade, ça demande pas beaucoup de place et beaucoup de profondeur. Donc, on peut en faire dans une caissette. On récupère une caissette chez son poissonnier. On met du bon terreau avec de la terre un peu franche du jardin et on peut se faire de la salade, des jeunes pousses ou même de la graine germée.
Alors, c'est quoi exactement la salade d'un point de vue botanique?
Ça fait partie de la grande famille des légumes. Hein. C'est riche en eau, c'est riche en vitamines, c'est riche en fer, selon le type de salade. Et puis, il y en a qui sont rassées, d'autres plus douces. Donc, la salade, elle peut correspondre à tous les goûts dans la cuisine parce qu'on a vraiment toutes les saveurs, tous les piquants. D'ailleurs, vous êtes d'accord, hein?
Ah oui, le poivré de la roquette, peu amer, les jeunes pousses d'épinards bien tendres.
On peut se faire un petit mesclin dans son jardin. On mélange des graines, on met ça comme ça au hasard. Au hasard, on sème et on a un petit mesclin. D'ailleurs, on peut les cultiver en jeunes pousses, donc c'est avant le stade adulte.
Alors, c'est quoi les jeunes pousses? Parce qu'on consomme des salades de jeunes pousses, c'est quoi exactement?
Alors, la jeune pousse, on connaît la graine germée, aussi très tendance. On connaît le stade adulte, donc la variété à récolter. Eh bien, c'est entre les deux. C'est entre la graine germée et le stade adulte. Alors, ça dépend du type de salade, mais c'est quelques jours, surtout quelques semaines, 2-3 semaines. On coupe vraiment la jeune pousse et on la consomme comme ça.
Alors, ce sont des jeunes pousses d'épinards, de moutarde, de choux, des feuilles de betterave, c'est ça les jeunes pousses?
Oui, les jeunes pousses, ça peut être de toutes les jeunes pousses de toutes les salades que l'on connaît. Ça peut être de la jeune pousse de moutarde, de choux, donc des jeunes pousses de presque tout, sauf attention, il y a des légumes qui sont toxiques
quand même.
Alors, vous avez la tomate à éviter, donc on ne la consomme pas en jeune pousse.
On ne consomme pas les jeunes pousses de tomate.
Jamais. La pomme de terre, c'est pareil.
La rhubarbe.
La rhubarbe, c'est pareil, c'est toxique. Souvent, les solanacées en général, donc tomates, etc., on ne les consomme pas. Pour éviter tout problème, concentrons-nous sur la salade que l'on connaît. Il y en a déjà des centaines de variétés. Si vous vous aventurez dans des jeunes pousses, vous avez intérêt de regarder véritablement si c'est pas toxique ou pas à l'état adulte. Donc, il faut éviter.
Comment expliquer ce boom et cette mode des jeunes pousses?
Eh bien, ça vient un peu des USA, comme beaucoup de choses, ça fait partie de la superfood, c'est-à-dire cette façon de consommer avec plus d'énergie. Quand on consomme du blé, par exemple, si on prend une valeur énergétique, on va dire une valeur énergétique de 1, une graine germée, on monte à 1000 en valeur énergétique, j'entends. C'est-à-dire qu'on mange de l'énergie, on mange de la vibration, on mange de la vie. Et quand on consomme de la jeune pousse, c'est pareil, c'est 4 à 40 fois plus riche en vitamines, en minéraux, en nutriments qu'une salade adulte.
Angèle Ferremag.
Oui, alors moi qui fais une cuisine santé, je suis très 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 partisane des graines germées et des jeunes pousse. Et en effet, en fait, le principe de ce qu'on appelle les super aliments, les super foods, les alicaments, tout ça, c'est que pour une même quantité, le niveau de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines sera bien plus important que pour d'autres aliments.
Oui, on appelle il y a des calories vides et puis il y a des calories pleines. Exactement. Les jeunes pousses, elles font partie justement de cette pêche et de ces calories pleines.
C'est l'opposé de la nourriture industrielle, hyper industriel.
Quoi. Bonjour, rebonjour docteur Arnaud Cocolle. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Ben forcément, vu le choix de vos invités, je suis forcément d'accord, Ali. Je peux pas être à l'inverse de ce qui est raconté. Donc effectivement, les salades, c'est absolument à recommander et on peut en manger quotidiennement. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire. Et qui plus est, en ces temps de crise économique, c'est un aliment qui a l'avantage d'être peu cher.
Alors de quoi sont composées les salades? D'eau essentiellement?
Ah ben c'est 95% d'eau, hein. Donc ça, elles sont extrêmement riches en eau. On pourrait dire dans ce cas-là que c'est pas très intéressant au point de vue nutritionnel. On pourrait parler dans ce cas-là de calories vides, mais en fait pas du tout, parce que c'est bourré en fait d'antioxydants, c'est bourré de vitamines, c'est bourré de minéraux. Donc par exemple, quelqu'un qui aime pas manger des produits laitiers, ben en mangeant de la salade, il va apporter du calcium. C'est une source d'apport de calcium. On va apporter du potassium. Potassium, c'est très intéressant pour lutter contre l'excès de sel de notre alimentation, pour lutter contre l'hypertension artérielle, par exemple. Donc la vitamine, toutes les vitamines B9, etc., c'est ce qu'on appelle l'acide folique, qui est très intéressant pour les femmes enceintes, par exemple. On supplémente systématiquement, lors des trois premiers mois de grossesse, les femmes en acide folique, qu'elles sachent que dans la salade, il y a de l'acide folique qui est apporté de façon tout à fait naturelle. Donc c'est ça qui est intéressant, cet aliment est extrêmement prodigieux, avec une diversité, il y a plus de 3000 variétés, je crois, de salades qui existent dans le monde, et en France, on en a plus de 300, donc il y a de quoi faire.
Vous parlez de calcium, on retrouve énormément de calcium, notamment dans la roquette. L'intérêt de consommer de la salade régulièrement, tous les jours, ce sont les fibres solubles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, docteur Arnaud Cocolle, quel est l'intérêt de ces fibres solubles? Qu'est-ce que c'est exactement une fibre soluble?
Ben, une fibre, en fait, c'est un sucre. Ça fait partie des sucres. Et donc, il y a des fibres qui vont être plus ou moins digestibles. Donc, ces fibres vont permettre, en tout cas, de nourrir ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est notre flore digestive. Donc, en apportant des fibres, vous apportez de la nourriture, en fait, à toutes ces bactéries qui pullulent dans notre digestif et qui nous apportent, en fait, la protection contre des maladies et qui renforcent notre système immunitaire. Et donc, il faut nous donner de la nourriture à cette armée de bactéries qui va nous protéger. Donc, l'intérêt des fibres, c'est ça. Sachez que le cancer du côlon, par exemple, en France, est l'un des cancers les plus importants, qui progresse malheureusement. Et donc, rapporter des fibres dans notre alimentation, et on devrait tourner aux alentours de 30 grammes par jour, et actuellement, on est plutôt à la moitié de ces recommandations, ben, les salades permettent d'apporter des fibres. Et donc, surtout, d'avoir un effet de mastication quand vous mettez de la salade en bouche, c'est vous vrai. Êtes obligé de broyer les fibres pour les rendre plus digestes. Alors, certains d'entre nous, on parlera peut-être plus tard, Ali, de la difficulté de digérer pour certaines personnes les fibres.
Et vous avez raison, les autorités de santé alertent sur le fait que nous consommons trop peu de fibres au quotidien. Alors, en préparant cette émission, j'ai lu qu'il y avait un intérêt à consommer des salades de couleur foncée, car elle serait plus riche en antioxydants, docteur Arnaud Cocolle.
Oui, je confirme. Donc, quand c'est foncé, en fait, dans la nature a très bien pourvu les choses, parce que plus vous prenez un aliment qui est foncé, qui est coloré, plus vous faites le plein d'antioxydants, plus vous avez des armes anti-radicalaires. Radicalaire, c'est quoi? C'est-à-dire que chaque fois que vous respirez, ben, en fait, chaque respiration nous tue un peu plus, entre guillemets, parce que ce qui nous tue, c'est l'oxygène. Et donc, petit à petit, on dégrade nos cellules, on les abîme. Donc, il faut des armes qui nous permettent de renforcer un petit peu notre système de défense contre les radicaux libres. Et donc, il faut des antioxydants.
Je précise.
Et plus vous mangez la nourriture colorée, plus vous avez cette armée à disposition.
Je précise l'oxygène qui nous fait vivre, mais le stress oxydatif nous tue à petit feu. C'est ça le sens de ce que vous disiez sur l'oxygène qui nous tuait.
Oui, la vie est une maladie mortellement reproductible.
Angèle Ferremag.
Oui, on peut vraiment penser que son assiette doit être très coloré, comme un arc-en-ciel, parfois on parle de ça.
Ça devrait être un réflexe.
Ça devrait être un réflexe, apporter vraiment de la couleur, les patates douces, les betteraves, enfin on a des tonnes de couleurs dans la nature, c'est un plaisir. Et là en plus avec l'arrivée du printemps, c'est encore plus beau. Et puis aussi on commence la digestion par les yeux, donc c'est beau les couleurs. Ça nous fait s'écouter de la salive.
Une petite question personnelle, docteur Arnaud Cocolle. Manger de la salade en fin de repas avec du fromage, quand on est un grand amateur de fromage comme moi, ça permet de réduire la facture calorique ou pas?
C'est un petit peu, parce que c'est vrai que si vous faites une raclette et qu'il n'y a pas de fromage, bon, ça va être un petit peu plus...
De salade, pardon.
Ça va se voir sur la bascule un peu plus. Ouais. Donc la salade a l'avantage d'apporter 95% d'eau, comme on le disait, et donc d'alourdir votre bol alimentaire, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez vous remplir, avoir un effet sur la satiété qui va être plus performant. Donc, par la force des choses, vous allez pouvoir prendre un petit peu moins de fromage que ce que vous auriez fait sans salade. Donc je vous conseille la salade, Ali.
Allez, dans un instant, on s'intéressera aux salades en sachet, remplies de pesticides pour nombre d'entre elles, selon 60 millions de consommateurs. Et nous vous donnerons des conseils pour en cultiver sur vos balcons, terrasses et jardins. C'est facile et c'est pas cher. Ce sera juste après avoir écouté Stéphane Echer. Combien de temps? Un titre sorti en 1987, 10h21 sur France Inter.
Comme un...
Stéphane Escher, interprété combien de temps?
Je vais vous prendre une salade en sachet, s'il vous plaît.
Grand bien vous fasse.
En sachet? Non, non, en sachet sous plastique.
À lire et BI.
Il y en a pas? Donc je suis censée manger de la salade sale?
Sur France Inter.
Vous avez peut-être reconnu la connasse Camille Cotin. La formidable Camille Cotin. Ce matin, on s'intéresse à la salade, trop souvent contaminée en sachet. On verra comment la cultiver sur son balcon, son jardin, sa terrasse, et comment la cuisiner. Alors Patricia Chéropoulos, dans 60 millions de consommateurs, un dossier très intéressant sur les salades déjà lavées et préparées. Elle n'est pas toujours belle, la salade en sachet, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire.
Non, on ne le voit pas forcément, mais lorsqu'on la passe au crible des analyses, comme nous avons fait, effectivement, on n'a pas eu forcément des bonnes surprises, oui.
Alors, les consommateurs sont très amateurs de ces salades prêtes à l'emploi.
Oui, en gros, c'est 7 foyers sur 10 qui achètent. Oui, c'est énorme. Après, c'est hyper pratique, c'est rapide. En plus, on a un choix énorme comparativement aux salades en vrac. Là, je fais l'avocat du diable. Après, c'est vrai, hein, ça a franchement son intérêt. Mais voilà, l'intérieur n'est pas forcément idéal.
Les salades toutes prêtes ont tout de même un coût par rapport aux salades en vrac?
Ah oui, forcément. Ben, il faut bien payer justement le service, c'est-à-dire de toute la chaîne. En moyenne, au moins pour les laitues, ça va de 4,50 à 9-10 euros le kilo. Là, je parle en kilo. Une salade en vrac, en gros, c'est un peu plus lourd, ça pèse. Bon, on va dire pour une salade, le kilo, c'est 3,50 € en vrac. Donc, on voit déjà la différence. Évidemment, il y a un petit peu de perte, mais ça reste évidemment beaucoup plus cher.
Quelle est la technique, Patricia Chéropoulos, du conditionnement sous atmosphère protectrice?
Alors, il faut savoir que la salade est un légume particulièrement fragile et sensible à l'oxygène. Donc, c'est vrai qu'il faut, pour la protéger et pour pouvoir justement vendre ces sachets une huitaine de jours, l'atmosphère protectrice, c'est-à-dire que les gaz sont modifiés. L'industriel va enlever une grande partie de l'oxygène et va la remplacer par de l'azote et du gaz carbonique. Donc en soi, ce n'est pas nocif. C'est bien pour ça qu'elles peuvent se garder plus longtemps a priori qu'une salade en vrac.
L'un des points noirs des salades en sachet, c'est le sachet en plastique.
L'un des points noirs, c'est celui-ci. Oui, c'est ça. C'est que pour l'instant, les solutions ne sont pas vraiment là. Certains essaient le papier Kraft, mais à l'intérieur, de toute façon, il y a un revêtement plastique parce que pour éviter l'humidité. Donc, c'est vrai que le plastique, c'est toujours le même problème et il y en a beaucoup.
Ouais. Alors, vous avez passé au crible 26 laitues et mâches, bio et issues de l'agriculture conventionnelle. Comment avez-vous quantifié les pesticides présents dans les produits sélectionnés?
Alors, en fait, à chaque fois, on cherche 650 à peu près molécules ainsi que leurs métabolites, les produits de dégradation, c'est-à-dire tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés de façon légale sur l'Hexagone. Et les résultats, c'est qu'on en trouve. Alors, on en a trouvé beaucoup, c'est-à-dire on a trouvé une grande variété. On a trouvé à peu près 28 molécules différentes sur toutes ces salades, ce qui est quand même beaucoup. Et dans certaines salades, on parle de résidus, on en a trouvé jusqu'à 9. C'est-à-dire un sachet de salade peut contenir 9 résidus de pesticides différents.
Et vous avez retrouvé des résidus de pesticides potentiellement cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Oui, là, ça fait peur. Bon, alors, il faut savoir que ces pesticides qu'on appelle CMR sont autorisés, sinon, mais dans des restrictions, justement, très fortes, à la fois et en quantité et pour certaines variétés seulement. Donc c'est vrai qu'on en a retrouvé 8. C'est-à-dire parmi les 28 molécules, on a retrouvé 8 qui sont CMR.
Donc cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction.
Voilà, CMR. Suspectés, plus exactement, CMR.
Alors vous le dites, Patricia Chéropoulos, les quantités retrouvées restent dans les clous réglementaires.
Voilà.
Mais le problème, c'est l'effet cocktail à long terme. Si tous les jours, on achète de la salade en sachet, et notamment les salades en sachet les plus contaminées, même à petite dose, au bout d'un moment, il y a un effet cocktail.
C'est ça.
Expliquez-nous.
Voilà, cet effet cocktail, déjà, il est très peu étudié parce qu'il y a tellement de molécules, il faut étudier tous ces mélanges. Donc, on en sait peu, mais on se dit, soit c'est un effet additif, par exemple, vous avez 3 molécules, chaque molécule, un additif, l'effet additionnel 1, 2, 3, soit il y a une espèce de synergie qui va augmenter justement leur effet potentiellement nocif. Et c'est bien ça qu'il y a à craindre, parce que plus il y a de résidus de pesticides, plus cet effet cocktail est probable.
Est-ce que vous conseillez de relaver la salade en sachet. Est-ce que c'est utile? Ou de la faire tremper dans
Écoutez,
du vinaigre
Oui et non, parce que ça peut rassurer, mais le problème c'est que une grande partie des pesticides ne sont pas solubles dans l'eau, donc vous aurez beau rincer votre salade, les pesticides et ceux encore plus qui sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont dans la matrice végétale, donc ceux-là ne partiront pas avec le main. Et en plus, c'est ça dans sachet. Elles sont déjà lavées, donc vous pouvez toujours le faire, hein, mais bon.
Vous nous donnerez tout à l'heure le classement des meilleures et des pires salades en sachet. Tiens, Philippe Collignon, un conseil pour choisir sa salade au marché. On fait attention à quoi ?
Que les feuilles soient bien vertes, bien à la fois souples et à la fois un peu rigides. Mais on le voit à l'œil, hein, tout simplement, quand vous voyez une, quand la salade est un peu boum, hein, un peu molle, un peu aplatie, évitons. Donc la salade bien fraîche, bien verte. Et le temps de laver notre salade en sachet, on a le temps de préparer justement avec du vinaigre, de laisser tremper des feuilles d'une vraie salade, parce que moi j'appelle ça des vraies salades, les salades du jardin ou de chez nos maraîchers, avec un peu de vinaigre blanc évidemment, ou du vinaigre rouge comme vous voulez, et vous laissez, voilà, il y a toujours une, et même on retrouve d'ailleurs des petites limaces dans les salades en sachet, donc autant laver une vraie salade.
Tiens, Jeff nous écrit: étant malvoyant, j'avoue céder plus facilement à la salade en sachet, plus facile à nettoyer, j'étais un peu traumatisé pour avoir trouvé des petites bestioles dans une salade fraîche. Alors, beaucoup de réflexions ce matin, Angèle Ferremag, je rappelle que vous êtes chef de la guinguette d'Angèle, d'auditeurs qui nous disent qu'ils sont buté par l'idée de nettoyer, de laver une salade. Vous avez des petits conseils peut-être ?
Oui, je comprends très bien que ce soit un aspect à prendre en compte, mais donc, on fait nos courses le dimanche par exemple, on va au marché. Déjà, c'est un lien très agréable qu'on retrouve avec notre alimentation. On remplit notre évier, on le lave bien, on fait tremper nos salades. Et là, on peut en faire deux, trois, si on est des grands consommateurs, bien les essorer et ensuite les conserver pour toute la semaine.
Comment on les conserve ?
Alors on les conserve dans un torchon humide, dans le bas du frigidaire, qui sera la partie la plus chaude en fait, il me semble. Et donc on les laisse là, et chaque jour on pioche un peu, une petite poignée, pour le repas, pour le midi, etc. Et c'est comme une salade en sachet, sauf qu'on ne fait pas l'acte de jeter un sac plastique encore dans nos poubelles, et c'est bien plus agréable. Et en plus, elles ont un meilleur goût quand même.
Et puis,
si vous êtes un peu fainéant, prenez de la salade avec des feuilles fermes, un peu épaisses, la frisée, la mâche. Elle se conserve un peu plus longtemps que certaines batavias un peu plus fragiles. Voilà, vous prenez de la salade costaud pour une conservation un peu plus longue. Effectivement, moi je fais souvent, je lave ma salade, je mets ça dans un torchon, je l'égoutte comme ça sur le balcon. C'est pas très grave, voilà. On les sort à l'ancienne et on le met effectivement en bas du frigo et ça tient très très bien.
Alors Philippe Collignon, j'aimerais que vous partagiez vos conseils pour planter salade et jeunes pousses. Quand on n'a jamais planté de salade, quels sont vos conseils ? On commence par quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Ah, en fait, vous avez trois possibilités et c'est très simple.
Si j'ai un jardin, si j'ai un balcon, j'ai une terrasse.
Si j'ai un jardin en pleine terre, évidemment, pas en plein hiver, parce qu'il faut quand même une certaine température de germination. La température de germination, c'est entre 19 et 21 degrés, plus vers les 21 que les 19. Donc on les sème en pleine terre, il faut que le sol soit propre au semis, c'est-à-dire... Moi, je conseille d'avoir un sol drainant, bien émietté. On rajoute un peu de terreau de semis et on sème. On met un petit tunnel, soit en plastique, cette fois-ci pour reprendre un peu vos salades en plastique, mais qui va nous aider sur plusieurs années à cultiver ces jeunes semis. Soit on a des voiles de semis qui ressemblent un peu à des voiles d'hivernage et qui permettent justement d'empêcher au départ les oiseaux, etc., de venir manger les graines. Donc ça aide à la germination. Donc ça, on peut le faire en pleine terre.
Vous conseillez de faire tremper les graines ?
Alors, pour certaines variétés, oui. Pour d'autres, non. La betterave, on l'a fait tremper. La marante, on l'a fait tremper. Les batavia, il n'y a pas besoin de les faire tremper. Les salades en général. Plus la graine, on va dire, est épaisse, avec un fort tégument, une forte densité, on l'a fait tremper 12 heures, 24 heures dans un verre d'eau, voilà, et on sème.
J'ai planté mes graines, je fais quoi après ? Je les arrose à quelle fréquence ?
On les arrose...
Ça pousse en combien de temps ?
Ah, ça dépend, tout dépend de la température. En fait, il faut faire attention de pas trop commencer les semis tôt dans la saison lorsque l'on les fait en pleine terre. Alors, soit on les démarre en janvier-février chez soi, tranquillement, au chaud, dans une cagette, et ensuite on les repique dans son jardin. Soit on commence les semis à partir de fin avril, début mai, tout dépend de la région où on est, pour que le sol se réchauffe. Un sol sol en dessous de 10 degrés, c'est impropre même à la plantation de jeunes plants, de plants de tomates, etc. Donc, il faut laisser un peu réchauffer le sol. Et plus il sera argileux, plus il se réchauffera lentement.
Tiens, Véronique de Grenoble a une question pour vous, Philippe Collignon. Bonjour, Véronique.
Oui, bonjour. Alors, en effet, j'écoute votre émission et en ce qui me concerne, eh bien, j'ai fait mon semis il y a déjà quelques semaines, on va dire, 23 semaines, avec des petites graines de batavia que j'ai mis dans le pot compostable, que j'ai maintenu à température dans la maison, que je sors au soleil chaque fois qu'il fait beau, que j'essaye d'arroser très régulièrement, je les surveille quasiment tous les jours, je les arrose. Alors, elles sont bien sorties, mais elles végètent et elles sont à un stade où elles n'avancent pas.
Ouais. Est-ce qu'elles se dirigent vers la lumière un peu comme de la pomme de terre qui chercherait peut-être une lumière, c'est ça, hein?
Oui.
En fait, elles manquent un peu de lumière. Donc l'idée, déjà, il faut les rapprocher le plus possible de vos fenêtres, etc. Pas non plus en
et
plein soleil.
Elles sont face à la baie vitrée, quoi.
Hein. Ouais. Il faut tourner le pot d'un quart tous les jours. Voilà, pour que en fait, elle bénéficie tout autour déjà de la lumière. Ensuite, effectivement, lorsque vous les mettez à l'intérieur, il fait 20, 21 degrés. Et lorsque vous les sortez, même s'il fait beau, le fond de l'air est frais. On peut avoir du soleil avec un fond d'air frais de 10, 12 degrés. Et ça, elles n'aiment pas trop, justement, ce rapport. Elles sont à 21, on les met au soleil, on pense qu'il fait chaud, mais le fond de l'air est à 10 degrés. Et donc, elles n'aiment pas trop cette différence de température. Donc, ça peut être ça. Moi, je vous conseille de toujours les maintenir à l'intérieur. Vous êtes dans quelle région? Plutôt nord ou sud de
Grenoble.
Ah oui, Grenoble, c'est ma région d'origine, donc je suis content. Donc, c'est vrai qu'à Grenoble, les nuits sont... Les nuits, ben moi aussi, je suis né à la tronche d'ailleurs. Les nuits, comme tout le monde d'ailleurs, les nuits sont fraîches. Donc, il faut faire attention justement aux semis. Les semis sont un peu plus tardifs que dans d'autres régions, parce que Grenoble, c'est un climat assez particulier. Donc, l'idée... Elles ne sont pas perdues, vous n'êtes pas atteinte des fontes du semis. La fonte du semis, c'est quand ça germe, puis tout d'un coup, elles fondent. Bon, ça, c'est une maladie cryptogamique. Là, je pense que c'est un problème de lumière, donc ça va s'arranger tout seul.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Bon, Philippe Collignon, j'ai pas de jardin, mais j'ai un bout de balcon, un bout de terrasse. Est-ce que je peux faire pousser de la salade? Mais quel est votre conseil?
Avec grand plaisir, on peut faire pousser la salade partout, dans un pot en terre cuite, etc. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure des jeunes pousses et de la salade, vous allez chez votre poissonnier, vous demandez une caisse en polystyrène, vous savez, qui accueille le poisson le dimanche en achetant votre salade. En même temps, vous repartez avec votre caisse de polystyrène.
En bois, non?
Non, en polystyrène.
Ah,
ouais,
parce
que comme ça, ça permet de désinfecter régulièrement. S'il y a une maladie, c'est mieux que le bois, parce que le bois conserve les maladies. Caisse polystyrène, du terreau à semis, vous semez ce que vous voulez à l'intérieur, vous mettez un petit voile, parce que la graine germe plutôt dans l'obscurité. Donc vous la laissez comme ça dans l'obscurité. Une fois que vous voyez que c'est germé, on enlève le voile et elles vont pousser régulièrement. Vous pouvez les couper régulièrement. Soit, si vous voulez avoir vraiment les mains propres et pas les mettre les mains dans le terreau, vous avez aujourd'hui des voiles de chanvre. C'est-à-dire du chanvre, c'est assez épais. On achète ça sur le net. Et vous semez directement dans ces feuilles de chanvre.
Et on peut s'y mettre là en avril.
Ah ben là, c'est très bien.
C'est
là.
La bonne période.
Là, la bonne période.
Bon, ouais. Mais très bien. Alors, dans un instant, nous allons vous délivrer des recettes de salades et de vinaigrettes. Et puis, on va vous délivrer également le classement de 61 consommateurs sur les meilleures et les pires salades en sachet. Ce sera juste après avoir écouté Norah Jones qui interprète Running.
But the aching tears me apart. I keep running home, I keep running.
Norah Jones interpréter Running.
La France, c'est plein de pesticides, c'est comme tout, maintenant,
grand
ça
confie
les pesticides.
Mais t'as vu ça, mais c'est Tchernobyl dans nos assiettes, hein, maintenant, on doit
même
l'accepter.
Même de la mâche, on peut pas en manger, même ça, c'est dangereux.
Oui, j'ai lu.
Ali Rebi.
Pour ça, là, nous, avec Jean-Luc, tout ce qui est fruits et légumes, on ne consomme que du jardin.
Regarde-moi la qualité de cette salade.
Elle est toute petite.
Ah bah évidemment, quand tu les irradies pas, elles n'ont pas l'air de sortir de la salle de sport. Mmh. Mais alors le goût.
Sur France Inter.
Et vous avez reconnu Catherine et Liliane. Et ce matin, les salades, comment les choisir, les cuisiner et les cultiver. La salade qui fait philosopher également. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rebi.
Vous êtes normalienne, agrégée de philosophie. Accessoirement, vous êtes végétarienne, grande amatrice de salades. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit que manger de la salade, c'est incorporer du vivant.
Oui, c'est alors je vais essayer de me remettre de la très mauvaise nouvelle que vous avez divulguée ce matin, à savoir que moi qui croyais quand même faire bien les choses en achetant mes salades sous vide, et en fait je me rends compte que c'est Tchernobyl sous vide, donc je vais essayer de m'en remettre. Mais en tout cas, oui, c'est vous permettez d'inverser totalement les représentations et les valeurs. En affirmant quoi ? En affirmant que la force, c'est la roquette, pas le steak. Alors, et j'en étais convaincue, donc merci à lui et merci à vos invités. C'est-à-dire qu'il y a un argument qui est avancé par les carnivores, un double argument, à savoir, la nature nous a fait carnivores, donc quand on mange de la viande, c'est l'appel de la nature, on devient ce qu'on est, des animaux. Qui avons besoin de manger de la viande. En fait, c'est faux. Et le deuxième argument qui va avec, c'est que la force, c'est vraiment, il faut aller la chercher dans la viande. Or, et je ne suis pas la première, et un argument, alors vous allez me dire, il date un peu, mais comme parfois en philosophie, quand même, les arguments, on va les chercher très loin, il date de 80, 90 de notre ère, mais pourquoi s'en priver ? Parce que c'est un argument très fort. C'est l'argument de Plutarque. Mmh. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi, pour moi, manger de la salade, c'est incorporer de la vie. Plutarque nous dit justement que l'argument qui consiste à dire être carnivore, c'est naturel et on ne peut pas aller à l'encontre de la nature, il dit non, en fait, manger de la viande, c'est une perversion. Mmh. L'homme n'est pas fait, et cet animal qui n'est pas fait pour manger de l'animal. D'ailleurs, dit-il, nous n'avons ni crocs, ni griffes. Et donc, pour manger de la viande, il faut la tuer. Mmh. Et à ceux qui continuent à dire, oui, on a besoin de manger de la viande, il dit, tuez-la vous-même. Et effectivement, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Nous ne voulons pas voir ces animaux que nous tuons. Et puis, la deuxième chose, deuxième argument très fort qu'il avance, à mon sens, c'est que manger de la viande, c'est incorporer la mort. Mmh. En fait, manger de la viande, c'est incorporer un meurtre, c'est y souscrire, c'est on a tué pour que vous puissiez manger. Et dit-il, qui peut dire qu'il va rester indifférent à la perte d'un être, et il va plus loin, à la perte d'une âme. Parce que les âmes, c'est pas seulement, dit-il, nos pères, nos frères, nos amis, ce sont aussi des animaux. Mmh. Et donc, pour lui, il faut qu'on ait conscience que quand on mange de la viande, en fait, on affirme la mort et pas la vie. Eh bien, la salade, pour moi, ça a toujours été ce moment un peu étrange qui est d'incorporer la vie. J'ai vraiment une sorte de demi-seconde de suspens parce que je me dis, là, tu manges du vivant. Alors, je crois que c'est Philippe Collignon qui a dit « Manger de la salade, c'est manger la vie ». C'est ça qui doit, d'une certaine façon, ritualiser, me semble-t-il, l'acte de manger de la salade. Donc, manger de la salade, c'est manger la vie, manger de la viande, c'est affirmer la mort.
Et je précise que Plutarque était un philosophe connu pour son végétarisme, né vers 46 et mort en 125 de notre ère, grec d'origine. Il était donc philosophe et moraliste dans la Rome antique. Angèle Ferromague.
Oui, moi déjà merci parce que je suis très d'accord avec ça et les enfants nous ramènent souvent à ce bon sens. Moi, j'ai une fille par exemple qui dit « Mais pourquoi il y a du cochon ? J'adore les porcinets, c'est mes amis. » En fait, oui, elle a raison. Il y a un coup du jambon mort sur la table. Donc ça déjà, c'est une petite aparté. Juste prendre conscience, l'idée c'est pas de forcer tout le monde à ne plus manger, mais juste d'en avoir conscience, d'être conscient que oui, c'est vrai, c'est une vie. Et aussi un autre argument, c'est que c'est quand on dit qu'on cherche la force dans la viande, les animaux les plus forts, le bison, l'éléphant, la baleine, ne consomment pas de viande. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher forcément notre énergie dans... dans la viande.
Merci Laurence Vider, vous restez avec nous. Tiens, une question pour notre médecin nutritionniste, le docteur Arnaud Cocol, charbonnier, qui nous écrit « Je rencontre des problèmes de digestion lorsque je mange de la salade le soir. » Et vous avez croisé tout à l'heure dans l'ascenseur Angèle Ferrebag une personne qui vous a dit qu'elle ne digérait pas.
Oui, la réceptionniste de la
merci
Radio
de la dénoncer. qu'elle ne digérait pas la salade. Et on a beaucoup de messages en ce sens, docteur Arnaud Cocol. Beaucoup de gens qui nous disent « Non, mais ça me fait ballonner, j'arrive pas à la digérer. » Qu'est-ce que vous conseillez ?
Alors, déjà, quand les gens me disent qu'ils ballonnent facilement, je les interroge systématiquement sur la mastication. Ouais. Est-ce qu'ils ont un bon état dentaire et est-ce qu'ils mastiquent ? Donc, il faut utiliser nos dents. Et vous vous rendez compte qu'actuellement, nous sommes dans une alimentation de plus en plus molle, plus en plus facile à digérer, donc qui ne sollicite plus nos mâchoires. Donc, il faut commencer par bien mastiquer. Donc, la salade, ça se mâche. Donc, il est important de broyer les fibres, comme on le disait tout à l'heure, parce que si vous avez une éruption brutale de fibres, ben, notre intestin n'est pas équipé de dents, jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut faire ça. Après, il faut éviter de se coucher immédiatement après avoir mangé. Donc, le soir, il faut au moins 1h30 entre le dîner et le coucher. Donc, sinon, vous risquez des remontées acides et ça peut favoriser effectivement les difficultés et les ballonnements, etc.
Et l'idéal, c'est peut-être de faire une bonne vieille marche digestive.
Oui, pourquoi pas. Les jours qui rallongent maintenant incitent à ça, donc pourquoi pas le faire. Et ce que je conseillerais également, vous savez, le passage dans notre histoire humaine du cru au cuit a été extrêmement important parce que ça favorisait l'assimilation des aliments. Donc avant, on avait un tube digestif qui était plus long et notre tube digestif s'est raccourci au fil du temps parce que on a eu moins d'efforts en fait pour digérer grâce à la cuisson. Donc il peut être intéressant de mélanger à de la salade, à des crudités, des légumes cuits qui vont en fonction de la quantité que vous allez mettre vous permettre de mieux digérer en tout cas si vous avez du mal avec le cru.
Merci pour vos réponses docteur Arnaud Cocol. Alors Patricia Chéropoulos dans 60 millions de consommateurs. Vous proposez donc un banc d'essai des laitues et des mâches des moins contaminées par les pesticides aux plus contaminées. Alors on va commencer avec la laitue. En tête de classement, quels sont les trois premières marques ?
Alors déjà, les deux premières ne contiennent pas du tout de résidus de pesticides. Ça veut dire que c'est possible. Et donc il s'agit de la Bonduelle Bio Iceberg, c'est une variété de laitue.
17,6 sur 20.
Voilà. Et la Florette, cœur de laitue. Et enfin, les saladinettes de Lidl.
Voilà. Donc la note de la Florette cœur de laitue, c'est 17,3 sur 20. Et la saladinette de Lidl, 12,9 sur 20. Alors les trois dernières du classement, avec 5 sur 20.
Oui, alors celle-là, effectivement, parce que dont certaines qui contiennent les fameux, enfin entre guillemets, 9 résidus. Donc la saveur du jardinier, Aldi, top budget, Intermarché. Et enfin la Carrefour, le marché. Donc cœur vous voyez que c'est donc des marques, c'est très, très varié.
Alors, les trois dernières, Carrefour Marché, cœur de laitue, Intermarché, top budget, le panaché de laitue, et puis chez Aldi, saveur du jardinier, cœur de laitue. Alors venons-en à la mâche, quelles sont les trois premières ?
Alors les trois premières, Bonduelle sans résidus de pesticides, ce qui s'est confirmé donc.
16,9 sur 20.
Voilà, les saladinettes de Lidl et Carrefour, le marché.
Alors, saladinette de Lidl, 16,8 sur 20. Et Carrefour Le Marché, pour la mâche, 16,7 sur 20. Et les plus mauvaises? Je suis très étonné par la dernière du classement.
Alors oui, la Carrefour Bio.
Carrefour Bio.
Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trouvé un résidu de pesticides qui est interdit depuis 2010. Pourquoi? Il est probable que c'est la rémanence de cette molécule dans le sol qui fait que malheureusement, toutes les cultures peuvent être contaminées et celle-ci l'a été apparemment.
Carrefour Bio, 5 sur 20, c'est la dernière de votre classement. Avant-dernier.
Saint-Éloi de Intermarché et Bonduelle.
Maxiforma.
Voilà.
Ça, c'est pour la mâche. Philippe Collignon.
On vous avez fait votre étude sur de la salade française, de provenance française, où il y a de la salade européenne.
Alors, justement.
Ça, c'est très intéressant.
Déjà, il faut savoir que comme il s'agit d'un produit pré-emballé, et sur ces légumes, sur ce type de légumes, l'origine n'est pas obligatoire sur l'emballage. Malheureusement. Mais les mâches, là, globalement, elles sont plutôt d'origine française, puisque c'est une salade d'hiver. Tandis que les laitues, effectivement, nous les avons achetées donc au début de l'hiver, et il s'agit de ou Espagne, ou Italie. Globalement, c'est plutôt Europe
ils,
du
ils
Sud.
Ils n'ont pas vraiment la même réglementation en France, qui est beaucoup plus drastique.
Voilà, ils sont effectivement. On voit que, a priori, les agriculteurs français sont plus modérés dans l'usage des pesticides.
Allez, dans quelques instants, quelques recettes faciles à préparer des vinaigrettes pour ce midi, par exemple. Ce sera juste après avoir écouté Flavien Berger, qui interprète sa peau. Flavien Berger interprétait Sapon.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Les salades, comment les choisir, les cultiver, comment les cuisiner, Angèle Ferremague. Je rappelle que vous êtes la chef de la guinguette d'Angèle. Des idées pour ce midi ou pour ce soir, vous nous proposez, tiens, des salades cuites.
Oui, pour changer, c'est délicieux la salade cuite. Donc, par exemple, une laitue braisée cuite au beurre.
Alors, comment vous y prenez ?
Donc, on la nettoie, évidemment, ou alors on pioche dans le bac de notre frigidaire. Là, on va la mettre dans une casserole avec très peu, mais vraiment très peu d'eau ou idéalement de bouillon. Si vous avez même un bouillon de poulet, un bouillon de légumes, une petite soupe miso, c'est vraiment délicieux. On en met très peu. On ajoute quelques noisettes de beurre, un petit peu d'ail haché, et on laisse couvrir 5-10 minutes à feu très doux. La salade va retomber, un peu comme les épinards. Et ensuite, vous ajoutez, si vous avez, un peu de graines de lin. Ah. Les graines de lin qui sont un mucilage qui vont lier, un peu épaissir tout ça, c'est vraiment très bon. On laisse mijoter 5 minutes, et c'est prêt. On déguste chaud. Moi, j'aime bien le servir avec un riz complet. C'est très simple, et vraiment, c'est étonnant le goût, c'est bon.
Une autre idée de salade cuite ?
Alors, par exemple, le kale, vous savez, le chou calé. Alors, c'est une salade...
K-A-L-E,
qui était avant du chou pour les lapins, mais qui est super bon. Donc, on va le faire sauter avec des échalotes, du piment. On va servir un peu
du beurre ou de l'huile.
Voilà, dans un peu d'huile. Avec une petite vinaigrette citronnée, des noix ou des amandes concassées, c'est très bon. Les salades de blettes, évidemment, sautées, donc facile. Ail, huile d'olive. Après, on met du parmesan frais, quelques pignons de pin, c'est très bon, mais aussi la soupe, la soupe de laitue. Donc on fait sauter notre laitue avec des oignons, de l'ail, des pommes de terre coupées en dés, on ajoute le bouillon de légumes, on laisse mijoter, puis tout simplement on mixe. Et une soupe à la laitue, c'est assez étonnant.
Et vos idées pour sublimer des salades fraîches
Alors, pour sublimer, moi j'adore, je trouve que les salades, c'est un fourre-tout très, très agréable. On peut évidemment ajouter, jouer avec la vinaigrette. Donc la vinaigrette, on, Généralement, le ratio, c'est 3-1. 3 d'huile, 1 d'acide. Pour les huiles, déjà, on peut vraiment se barrer. Donc, avec une base d'huile d'olive qui reste la moins chère, mais une bonne huile, première pression à froid, on peut ajouter des huiles de noix, huile de chanvre, huile de cameline, huile d'avocat, huile de macadamia. Enfin, il y en a plein. Elles ont des saveurs excellentes. Donc ça, ce sont pour les huiles. Et ensuite, pour l'acidité, on pourra mettre du jus de citron, du vinaigre de cidre, du vinaigre balsamique.
Moi, j'adore le balsamique blanc.
Délicieux. Et il y a aussi un vinaigre japonais qui est peu connu mais très très bon qui s'appelle le vinaigre d'ume ou d'umeboshi, de prune japonaise, qui est délicieux.
Pas facile à trouver à mon avis.
Dans les magasins bio, on les trouve partout.
Et Alexandrie nous écrit la sauce qui plaît absolument à tout le monde et c'est la condition pour que mes enfants mangent de la salade. 2 cuillères à soupe de soja, de sauce soja sucrée, 1 cuillère à soupe de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, voilà. Bim, nous écrit Alexandrine. Ah et oui. On peut ajouter peut-être un petit peu de...
d'ail ou de gingembre.
D'ail, d'échalotes, etc.
Ah oui, mais ça, délicieux, la sauce asiatique. Et puis évidemment, les herbes aromatiques, les herbes fraîches.
Oui, les herbes fraîches. Oui.
Les herbes fraîches,
ça. On peut faire des salades d'herbes aussi.
Ah, ça,
d'herbes fraîches.
C'est d'une saveur dedans.
Ah oui, vous ajoutez de la ciboulette, de la ciboule. On peut même mélanger tout ça avec les salades quand on les sème, puisqu'elles sont compagnes. C'est vraiment très, très bon.
Tiens, Evelyne. Au téléphone du Jura. Bonjour.
Oui, bonjour Ali.
Une très bonne technique, tiens, à partager si la salade se flétrit. Est-ce que vous pouvez la partager, Evelyne ?
Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment très simple parce que quelquefois, c'est vrai, j'achète plusieurs salades, je ne fais pas tout de suite. Et donc, au moment où j'épluche mes feuilles un petit peu flétries, je les mets dans une eau tiède. Et donc, je les laisse à peu près 3 quarts d'heure. Un petit peu plus, ça dépend. Alors, tiède, il faut que ce soit quand même pas chaud non plus. C'est un petit peu, les premières fois, on peut se tromper, on peut faire trop chaud, bon, c'est à essayer. Et après, on les remet dans une eau froide et elles deviennent aussi croquantes qu'elles étaient le premier jour. Ça marche vraiment très bien. C'est ma maman qui m'avait donné
votre maman avait bien raison. Excellente technique, Philippe Collignon.
C'est pareil pour le radis. Le radis, quand on achète une botte de radis, parce qu'on peut le consommer aussi en jeune pousse, eh bien, vous prenez un saladier, vous mettez de l'eau, vous les mettez au frigo et vous allez voir, ils seront croquants jusqu'au bout.
Valérie partage cette recette. Un fond de salade verte émincée, du chou blanc et du chou vert en très fine lanière. Des carottes râpées, des radis en petits cubes, de la menthe effilée, de la ciboule hachée, 1,5 œuf dessus, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, du sel, du poivre, et nous écrit « Youpi !» Et on la comprend, hein, Angèle.
Ah oui, ça donne envie, je lui pique la recette.
Bon, mais merci en tout cas, merci à tous d'être venus. Merci Philippe Collignon.
Avec plaisir.
Je conseille... Ah, il nous reste 1 minute, nous dit notre réalisatrice, donc il y a peut-être une dernière recette, Angèle Ferremag.
Je suis très contente parce que je voulais ajouter un élément, c'est que dans la salade, on peut aussi ajouter évidemment tout ce qui est graines, noix, pistaches, amandes, noisettes, écrasées, torréfiées, ça c'est vraiment délicieux.
Une salade de mâche avec des cerneaux de noix. Hein.
Et puis des petits légumes aussi, des légumes rôtis, des légumes à vapeur.
Et puis le choucal aussi, vous en parliez, la jeune pousse, elle est croquante, piquante, elle est excellente. Alors le choucal petit pour les jardiniers, il faut qu'il gèle une première fois pour qu'il soit bon.
Et le choucal d'ailleurs, ça fait partie des salades qui sont très étonnantes, parce que comme l'épinard, on peut en faire des chips. Donc on le masse avec un peu d'huile, un peu de citron, un peu
comme
de sel.
Comme le bœuf de Kobe, non ?
Voilà, exactement. et on le met au four, pendant à 160 degrés pendant un quart d'heure, et on a des chips légumes
super.
Verts.
Des chips de choucal. Merci beaucoup Philippe Collignon, je conseille votre petit guide des salades et jeunes pousses, mais aussi votre petit guide du semis, ça tient dans le creux d'une main, et c'est chez First. Merci beaucoup Patricia Chéropoulos. Vous pouvez retrouver votre dossier sur les salades en sachet dans 60 millions de consommateurs, indispensable magazine en kiosque ou par abonnement. Merci Angèle Ferremag, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel. C'est publié chez Marabout. Merci beaucoup docteur Arnaud Cocolle et merci Laurence de Villers pour votre petite philosophie de la salade. Demain, à l'occasion du Salon du Livre, comment ranger sa bibliothèque et vous, comment procédez-vous? Et quels seraient les livres que vous emporteriez avec vous sur une île déserte? Racontez-nous tous dès maintenant sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.